Bonjour. Alors effectivement, je vais évoquer, à travers d'ailleurs des images puisées dans le fond du musée du Quai Branly, la figure de la poupée au sein de cette catégorie des jeux ou des jouets. À noter que nous avons un peu plus de 600 objets identifiés comme étant des poupées collectées aussi bien en Afrique du Nord qu'en Afrique subsaharienne dans cette collection. En fait, c'est un sujet qui est vraiment très peu approfondi par la recherche aussi bien de terrain que par la collecte dans ce rapport avec le continent africain. On se rend compte que c'est un domaine qui a été très sous-estimé, les poupées relevant effectivement pour les voyageurs d'une catégorie d'objets sans grand intérêt. Il semble en fait qu'à l'intérieur de cette catégorie des poupées, il y a de véritables hiérarchies entre le jeu, l'objet qui a une fonction et l'objet qui est investi de pouvoir et de puissance. En fait, ce qui frappe dans cet ensemble, je vais vous montrer une sorte de chronologie de cette collection des poupées du musée du Quai Branly, dont les plus anciens exemplaires, comme celui-ci d'ailleurs, ont été collectés à la fin du 19e siècle. Cet objet est entré dans les collections avant 1881. C'est une poupée Ngwato d'Afrique du Sud. Ce qui frappe effectivement, c'est la grande hétérogénéité des formes, des formules et des matériaux dans une représentation qui n'est jamais naturaliste, qui est toujours très, très stylisée du corps humain. La poupée, en fait, n'est pas du tout une sculpture miniature, par exemple. Ça n'est pas un objet en bois sculpté. Elle a ses codes esthétiques propres, même si elle s'inspire très précisément de la forme humaine, comme vous le voyez ici, avec un corps, une tête, des bras, une coiffure qui est encore une fois très bien observée, et elle restitue d'ailleurs plus particulièrement ici le costume de la jeune fille au moment de l'initiation, c'est-à-dire au moment des rites de passage entre l'adolescence et l'âge adulte, à la veille en fait du mariage. Si la plupart des jouets en Afrique en fait sont réalisés en fait par les enfants eux-mêmes qui produisent leurs jouets à partir d'ailleurs de matériaux accessibles, disponibles, c'est souvent la terre tout simplement, facile à travailler, donc la terre modelée ou plus récemment des matériaux recyclés, beaucoup d'objets en métal. Vous êtes peut-être plus familier effectivement avec ces jouets contemporains. Les poupées, dont je vais vous montrer un échantillonnage entre la fin du 19e siècle et on va dire le milieu du 20e siècle, transcendent vraiment la notion de jeu et sont en général réalisées par des adultes et plus particulièrement par des femmes. Donc c'est vraiment un domaine très féminin puisque les représentations en général représentent également des femmes. Elles montrent beaucoup, beaucoup de soin quant à leur technique de production. Vous voyez ici, on a une graine, une calebasse pour former effectivement la tête et la partie basse du corps qui est une forme de synthèse pour évoquer la plénitude des hanches du personnage. On a des petits bras qui sont bourrés avec des fibres qui sont en cuir, entièrement perlées. Vous voyez des perlages aussi qui apparaissent au niveau de la taille. C'est une restitution de du costume et tout un faisceau de fibres végétales qui forment le corps tubulaire avec une ficelle qui est entourée. On voit également un cori qui est attaché au niveau de la tête. C'est une monnaie, c'est un indice de préciosité. Je vais vous en montrer une autre qui est bâtie sur le même type, qui a été collectée en 1905. Donc c'est un objet, encore une fois, relativement ancien, entré dans les collections du musée d'ethnographie du Trocadéro. On retrouve effectivement cette même construction avec la mention des bras, avec les parures au niveau des épaules, des avant-bras, les mains qui sont matérialisées par des petits enfilages de perles. Alors il s'agit de perles de verre. On reparlera effectivement de cette question des perles. Toutes les couleurs sont symboliques, ces couleurs des perles, le blanc en général lié à la notion de pureté, également à l'évocation des ancêtres, le rouge qui est une couleur beaucoup plus associée avec l'énergie, avec la vie. La précédente avait une, une très jolie... J'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. Une très jolie coiffure. Je reviens dessus avec, encore une fois, des enfilages de perles qui indiquent ce moment très particulier de la vie féminine. Donc, l'objet est en même temps rempli de graines au niveau de la partie basse, donc c'est-à-dire la partie qui évoque le ventre, les hanches, la partie médiane du corps est rempli de graines. Donc il forme une sorte d'instrument de musique lorsqu'on le secoue, et en même temps c'est une métaphore évidemment des enfants à venir et de la bénédiction qui est appelée sur les jeunes filles à la veille du mariage. Donc celle-ci a été collectée au Botswana par Lionel Decle. Alors on trouve une appellation qui est celle de poupée de fécondité pour désigner ces objets qui étaient très très largement utilisés pour désigner ces jouets entre guillemets. En fait, il faut vraiment leur reconnaître plusieurs niveaux de lecture, et une grande partie de ces objets ont un caractère protecteur et sont en fait dans les langues vernaculaires désignés sous le terme d'enfant. Donc il n'y a pas de mot pour transcrire cette notion de poupée ou de jeu. Ce sont véritablement des enfants, un enfant qui est fait par celle plutôt qui a produit l'objet, au sens propre comme au sens figuré, puisque effectivement cette poupée va prolonger les enfants ou appeler les enfants à venir. Alors, une petite poupée Zoulou, Nguni, toujours d'Afrique du Sud, qui a été collectée avant 1930 au Lesotho. Chez les Zoulous, en fait, le terme pour les désigner aujourd'hui est une corruption du mot anglais doll, puisque ces poupées, on les appelle Udoli. Donc c'est une influence effectivement qui est venue de la colonisation britannique. Là, on voit une petite figure miniature de femme adulte, et il ne s'agit en aucun cas effectivement de la représentation d'un bébé ou d'un enfant, mais qui elle-même porte son enfant dans le dos. Vous voyez la solution plastique qui est en même temps assez évocatrice de cette relation très très proche de la mère avec son enfant, puisqu'elle va qu'à toutes ses occupations domestiques avec son bébé dans le dos. Donc ces objets ont été bien observés par les premiers missionnaires et voyageurs au 19e siècle dans toute l'Afrique subsaharienne, mais effectivement sans susciter encore une fois un réel intérêt. C'est plutôt par hasard qu'elles ont été collectées. Et pour deux raisons, c'est qu'en même temps, ces objets étaient très précieux pour leur propriétaire. Je reviendrai dessus. Alors, il est assez rare de les trouver dans les collections de musées, fabriquées encore une fois par des femmes. Elles sont faites à partir de matériaux qui sont assez fragiles. On a vu donc des matériaux végétaux, du textile en l'occurrence, des perles, des fibres. Autrefois, elles avaient donc une place particulièrement importante au moment de ces rites de passage en temps que garante de la fertilité. Alors on va voir une autre poupée qui vient du Cameroun, celle-ci, qui a été collectée un petit peu plus tard, dans les années 1934, par Henri Labouret, donc en Afrique centrale, au Cameroun, qui reprend un peu cette construction d'une poupée schématique au niveau du corps, mais où par contre la coiffure a assez bien restitué, avec des détails de la chevelure, avec des petites perles. Encore une fois, vous voyez tout l'enrichissement qui couvre le corps avec ces fils de perles qui sont entourés autour de ce corps très très schématique, alors qui est encore une fois entièrement recouvert de perles. On retrouve un esprit qui est assez proche dans sa forme de celle des poupées d'Afrique australe. En général, effectivement, les poupées sont clairement de sexe féminin, et on reconnaît ce détail, on le détermine par la coiffure et les parures plus que par des indications véritablement sexuées. Il y a quelques poupées masculines, en général, effectivement, là du coup, le sexe devient apparent. Parfois, elles évoquent le modèle de la maternité. On l'a vu il y a un instant. Ces objets n'ont cependant pas d'identité, de personnalité distincte. Ce sont en fait des attributs de la maternité pour les jeunes filles dont la réussite en tant qu'adulte, que femme, passe véritablement par la capacité à engendrer et à avoir donc des enfants. C'est quelque chose de tout à fait crucial dans les sociétés africaine. Alors voilà une autre poupée qui vient du Lesotho, qui est ancienne, quand bien même elle est rentrée relativement récemment dans les collections. Une poupée Soto, donc, qui est un cône de bois. On voit effectivement la forme en bois, avec un très beau perlage qui recouvre le corps, ce qui évoque effectivement la partie haute du corps et la partie basse, qui est une sorte de grand costume, on pourrait dire, et qui reprend tout à fait le motif des pagnes d'ailleurs portés par les adultes, qui sont souvent d'ailleurs des petits tabliers, qui ne sont pas des sortes de manteaux comme ce qu'on voit reproduit là sur la sculpture, qui évoque vraiment là une couverture, plus une couverture d'initiation. Ces perlages étaient produits donc à partir de ces perles de verre qui étaient originaires d'Europe, hein, notamment de Murano à Venise, et qui ont été importées sur le continent africain depuis les temps les plus anciens. En tout cas, à partir du XVIe siècle, ont vraiment fait l'objet d'un commerce très très important sur tout le pourtour du continent africain, avec ces perlages qui ont été tout de suite intégrés dans un système assez complexe en Afrique australe d'échanges économiques pour l'obtention d'une épouse. Parce qu'en fait, en Afrique, la dot est payée par le mari, le futur mari. C'est l'homme qui achète entre guillemets sa future femme ou ses futures femmes s'il a les moyens. Donc effectivement, il y a tout un ensemble de cadeaux qui sont faits à la famille de la jeune fille sous différentes formes. Effectivement sous forme monétaire, les monnaies précoloniales, ou sous forme de bétail ou de biens manufacturés. Donc les jeunes payaient une dot à leur beau-père et recevaient en échange en fait de leur fiancé des perlages qui sont un peu une double expression à la fois d'affection, d'engagement de la part des jeunes filles, et qui représentaient aussi une richesse puisque ces perles servaient de monnaie d'échange. Donc les perles ont fonctionné pendant des siècles comme un équivalent monétaire, et ce commerce a été très très florissant au XIXe siècle en Afrique australe pendant cette période entre 1840 et 1880. Là, les couleurs qui ont été retenues, on trouve du rose pâle, du vert, du noir et du blanc. Là, on retrouve vraiment ces associations de couleurs pendant une période très précise entre 1870 et 1890 chez différents groupes d'ailleurs d'Afrique du Sud. Donc ça n'est pas propre en particulier aux Soto en l'occurrence, puisque les Zoulous ont également utilisé, favorisé cette gamme de couleurs. Donc il y a vraiment eu aussi un phénomène de mode dans le choix des couleurs des perles et dans leur qualité, entre les perles translucides, les perles opaques. Il s'agit de petites perles rondes, granulaires, et donc ça nous permet effectivement aujourd'hui de dater, mais pas véritablement, vous voyez, de localiser en l'occurrence, puisque ces modes ont pu être partagés par des groupes très éloignés les uns des autres. Alors je vous montre une poupée que j'ai moi-même collectée il y a quelques années en Afrique du Sud, mais qui représente bien là aussi cette permanence des traditions des poupées d'initiation. Elle est construite à partir d'un faisceau de tiges végétales qui est enveloppé dans une chaussette, pour vous dire exactement la composition qu'on voit dépasser en bas et en haut. Donc il y a du recyclage aussi. Et puis on voit donc tout le costume de la jeune initiée qui est véritablement très très bien reproduit ici, puisqu'elle va porter autour de la taille cette accumulation qui là ici monte quasiment jusqu'au niveau du cou, mais c'est quelque chose qui se porte vraiment autour de la taille, c'est-à-dire les les anneaux de fibres végétales, des sortes de grands cercles, et également les anneaux perlés. Ce sont des fibres, des boudins de fibres qui ont été perlés. On le voit en partie basse, rouge, rose, blanc et bleu. Également des enfilages de perles. Et on voit aussi apparaître des liens, des sortes de ceintures de cuir avec des boutons de chemise qui sont cousus dessus. Là aussi, les boutons de chemise ont été très prisés par les populations africaines en tant qu'éléments d'ornement, de prestige. Ils ont été incorporés dans les bijoux, la parure, le costume, où les jupes et les couvertures étaient recouvertes de boutons de nacre, donc qui embellissaient ces couvertures, même chose avec les épingles, etc. Tous ces produits qui venaient donc d'Occident et qui ont été détournés et donc incorporés dans le costume. Donc là, on a vraiment une restitution du costume. Elle a même des petites lunettes, vous voyez, des petites lunettes en perles, et sa chevelure, qui est une chevelure tressée, est faite à partir de fibres, mais elle restitue bien effectivement la coiffure des jeunes, encore une fois, des jeunes initiés Ntuana, donc en Afrique du Sud. Alors, parallèlement à cet art du perlage que j'évoquais il y a un instant, à la fin du 19e siècle, donc en Afrique australe, on va noter un renforcement de l'expression identitaire à travers les modes vestimentaires, justement très très bien reproduits au niveau de ces poupées qui sont des petits objets, hein, qui en général ne dépassent pas 40 cm de haut. Ici, c'est un costume, encore une fois, du moment de l'initiation. Et cette situation va vraiment se développer en réaction à la colonisation, fin 19e et pendant tout le 20e siècle, et en Afrique du Sud en particulier, pendant toute la période de l'apartheid, où les perles et les perlages vont devenir un moyen visuel pour exprimer publiquement l'identité à la fois individuelle et collective, c'est-à-dire la notion de rattachement à une identité ethnique, tout en définissant aussi des relations sociales. Donc les perlages, comme les poupées d'ailleurs, étaient un héritage qui se transmettait de mère en fille. Cette poupée est ainsi une sorte de manifeste de la tradition de Ntuanais. Encore une fois, je l'ai collectée à la fin des années 90, qui est en même temps aussi une référence donc, à cette tradition de l'initiation, donc de ce rite de passage, face aux religions importées, notamment le christianisme, évidemment, qui a combattu très très fortement toutes ces traditions dans leurs prolongements les plus anodins en apparence, et en particulier cet art du perlage. Alors voilà une autre poupée qui est plus ancienne, qui est une poupée Peul. Les Peuls sont des éleveurs, des semi-nomades qu'on retrouve dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et on va avoir également ce principe donc d'une poupée schématique où l'accent là, est mis vraiment sur la richesse qui est représentée à travers les éléments qui forment les bras et les jambes, puisqu'on va trouver des kori, vous voyez au niveau des pieds, le kori c'est une monnaie. À l'époque précoloniale, il a la même fonction que la perle de verre. Et on a des enfilages de graines, donc des sortes de petites perles locales qui sont faites avec des graines pour, encore une fois, figurer les bras et les jambes. En général, c'est au niveau de la coiffure, au niveau de la tête, la représentation de la tête, qu'on va véritablement reconnaître l'aspect féminin du personnage. Alors, dans cette région du Cameroun, on a des poupées qui sont en bois sculpté, qui sont des petits objets, mais encore une fois recouverts de parures, recouverts donc d'une abondance d'éléments qui évoquent encore une fois la richesse. Alors avec ici, vous voyez des enfilages de perles de production locale, puisqu'on a également un travail de la perle de verre en Afrique, en particulier au Cameroun. Là, on a la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. les yeux sont figurés d'ailleurs par des petites perles de verre incrustées. Et on voit également des éléments métalliques de récupération, une sorte de clé, des petites clochettes également, en laiton fondu, donc qui s'accumulent et qui transmettent vraiment cette idée de richesse qui est appelée encore une fois sur la jeune femme, sur la jeune fille. On trouve effectivement surtout des perles monochromes, certaines comme celle-ci ont été fabriquées encore une fois localement. Les perles de couleur bleue étaient des perles particulièrement prisées. Elles sont souvent associées d'ailleurs, ce sont des attributs de pouvoir, des chefs et des personnages qui ont des fonctions importantes. On retrouve cette abondance du perlage portée aussi bien d'ailleurs en collier qu'au niveau des régalias au Cameroun, donc dans le contexte de la chefferie ou dans le cadre de la divination. Alors, c'est juste pour vous montrer quelques formes. Là, on remonte vers le Tchad avec une petite poupée en bois sculptée qui, vous voyez, avait ses oreilles et le haut de la tête percé. Donc, on voit qu'elle a perdu ses ornementations, mais vraisemblablement, elle avait des petits enfilages, là aussi, de petites perles pour figurer donc ses ornements. Là, sa coiffure est très finement reproduite avec une crête centrale et des petites tresses latérales. Et on voit, c'est une poupée Bagirmi, donc même si elle représente assez schématiquement un corps humain avec une sorte de partie basse très, très simplifiée. On voit toutefois qu'elle a donc la poitrine qui est figurée. Donc c'est vraiment une poupée féminine. En voilà une autre version, toujours poupée Bagirmi du Tchad, où les bras sont à peine mentionnés, encore une fois. Mais la poupée est clairement... encore une fois, une femme, comme l'indique à la fois cette coiffure, avec, vous voyez, son petit profil qui est évoqué là par les quelques encoches au niveau de la tête, la présence, là, très très claire de la poitrine féminine. Donc, ce ne sont pas des représentations d'enfants, encore une fois, même si on les appelle des enfants, elles sont souvent d'ailleurs manipulées comme des enfants, mais elles convoquent donc cette idée d'accomplissement par la procréation. Elles peuvent être, par contre, tout à fait entretenues, encore une fois, et manipulées comme de véritables bébés. Voilà une petite poupée Yoruba de la région de Kétou au Bénin. Celle-ci a été collectée dans les années entre 1930 et 1960. Elle provient elle a été collectée en 1932. Elle a été donnée par Christian Merlot au musée d'ethnographie du Trocadéro. Et c'est une poupée dont le corps, vous voyez, est réduit à une simple forme géométrique, un rectangle. En fait, il s'agit d'une sculpture vraiment schématique. Si on la compare à l'intérieur de cette même culture des Yoruba aux Ibéchi, aux représentations de jumeaux qui sont support d'un culte, on a des statuettes extrêmement travaillées en ronde bosse. Là, on a effectivement un objet qui est très simple et qui est fonctionnel, puisqu'en réalité, il représente simplement le bébé qui est enveloppé dans sa couverture, là, l'enfant, dans le pagne qui le maintient sur le dos de sa mère, donc avec tout le décor du textile qui apparaît représenté et la tête du bébé qui est tournée de côté et donc qui s'appuie sur le dos de la maman. Donc c'est là vraiment une représentation qui permet à la jeune fille ou à la petite fille de porter la poupée exactement comme s'il s'agissait d'un bébé, de la glisser donc dans son pagne, dans le dos. Alors on en arrive effectivement à ces poupées qui sont portées sur le corps et qui sont des poupées qu'on appelle encore une fois de fertilité, de fécondité, qui sont souvent d'ailleurs utilisées en fait pour soigner la stérilité et non plus pour encourager la fertilité. Elles ont vraiment une dimension thérapeutique. Là on est chez les Ashanti au Ghana, on a une... Poupée, encore une fois, qui est une représentation adulte. Hein, on voit une poitrine féminine très, très clairement indiquée et le visage qui est tout à fait circulaire, qui est un critère de beauté chez les Ashanti, avec donc ce détail aussi de la petite bouche, des sourcils qui se rejoignent, du cou annelé avec les plis de beauté, comme on les appelle, c'est-à-dire la graisse qui s'accumule au niveau du cou. Tous ces éléments donc restituent une vision, encore une fois, de la beauté féminine chez les Ashanti. Et on voit que la petite poupée a également ses parures au niveau de la taille, elle a ses petits rangs de perles, elle a sa boucle d'oreille également. Le pourtour du visage étant percé pour permettre d'y insérer ses petits ornements. Donc, ces poupées ont pour mission, comme je viens de le dire, vraiment de remédier à la stérilité. Donc, elles concernent non plus des toutes jeunes filles, mais des femmes mariées, adultes, qui malheureusement ont des difficultés à concevoir ou qui ont perdu successivement leurs enfants en bas âge. C'était également une réalité à mentionner autrefois, effectivement, l'importante mortalité infantile qui a peut-être mis beaucoup de puissance dans ces objets. Donc elles sont activées par un spécialiste et traitées encore une fois comme un véritable enfant. Je vous montre quelques variantes. Certaines sont plus naturalistes. On va avoir véritablement ici des jambes qui sont représentées. Donc elle a un peu l'aspect d'une petite sculpture avec à l'arrière donc la mention de dessin, de scarification à l'arrière de la tête. Mais on retrouve toujours les mêmes constantes dans la construction avec ce visage parfaitement circulaire. Les enfants dont les os sont encore un petit peu mous à la naissance vont avoir le front travaillé de manière à ce qu'il soit très haut, très dégagé. C'est vraiment encore une fois un critère de beauté, notamment évidemment pour une femme. Alors on les appelle les Aquaba, c'est leur nom. Aquaba, cela signifie l'enfant d'Aqua, et c'est lié à une histoire populaire d'une jeune fille qui effectivement avait des difficultés à concevoir. C'est une grande calamité en Afrique d'être mariée, ne pas pouvoir avoir d'enfant, et qui avait consulté un devin qui lui avait conseillé de faire fabriquer un substitut, en faire une sorte de support de transfert de son désir d'enfant, qui lui avait conseillé de porter exactement, de choyer comme un enfant, comme si c'était un véritable enfant. Tout le village, évidemment, s'était moqué d'elle en la voyant avec sa petite sculpture qu'elle portait, donc encore une fois dans son dos, dans le porte-bébé, et avec laquelle dont elle ne se séparait pas, puisqu'il y en a vraiment une très grande proximité entre la mère et le bébé en Afrique, y compris pendant le sommeil. Donc, jusqu'au moment où, en fait, cette thérapie a tout à fait bien marché, puisqu'elle est tombée enceinte. Et elle a mis au monde une petite fille. Donc, depuis, en fait, cette histoire est véritablement entrée dans la tradition orale Ashanti, et toutes ces petites poupées sont appelées les enfants d'Aqua, et toutes les femmes qui ont des difficultés à concevoir donc ont, à un moment ou à un autre, utilisé cette technique, en fait, puisque la stérilité n'est pas forcément simplement une question d'ordre mécanique ou biologique, personnel. Ça peut être tout à fait le résultat d'une malveillance, de ce qu'on appelle en Afrique effectivement la sorcellerie qui peut être dirigée effectivement contre un individu. Donc la poupée, après avoir rempli cette mission qui est d'aider encore une fois une femme à concevoir, peut tout à fait retourner soit auprès du prêtre qui avait conseillé sa production et qui a en même temps été le médiateur évidemment vis-à-vis de forces surnaturelles qui ont aidé la jeune femme à concevoir, ou encore rester dans la famille de la jeune femme et être transmise de génération en génération, et là être utilisée tout simplement comme un jeu par les petites filles. Donc on a vraiment différents degrés, encore une fois, d'usage pour ce type d'objet. Alors je voulais juste vous en montrer plus plusieurs pour décliner un petit peu c'est à la fois l'individualité de la représentation à l'intérieur, encore une fois, d'un style qui est vraiment tout à fait identifiable au premier regard dans sa construction. En voilà une autre qui est assez curieuse, puisqu'elle porte, vous voyez, au niveau du corps, une sorte d'amalgame qui est ligaturé, ce qu'on appelle un paquet magique, tout un ensemble d'ingrédients qui ont été malaxés avec de la terre et qui active l'objet, qui a vraiment la place dans cette sphère que j'évoquais il y a un instant, des objets investis de pouvoir, qui sont supports de la présence d'esprits qui sont des esprits protecteurs. Alors, les poupées n'ont pas véritablement constitué un domaine de recherche ou de spécialisation, on pourrait dire, dans l'ensemble des collections originaires du continent africain. On a vraiment très très peu d'ouvrages d'ailleurs qui sont consacrés à ce sujet et très peu, encore une fois, de chercheurs qui se sont intéressés à ce petit domaine matériel, à l'exception de la mission d'Akar Djibouti et de Michel Léris qui ont eu un regard particulier orienté donc vers les enfants, pour la raison toute simple qu'il leur était assez difficile d'avoir accès à des choses beaucoup plus secrètes et sacrées, et que finalement les enfants venaient vers eux tout au long de cette mission assez spontanément, et donc ils ont pu avoir à la fois des échanges, collecter de l'information et même rapporter ces objets qui parfois d'ailleurs ont été produits pour eux, fabriqués pour eux, et qui leur ont été remis. Alors voilà une petite forme, encore une fois, qui est assez simple et amusante, d'une poupée qui a été collectée à Kais, qui est une poupée tout couleur, qui évoque encore une fois la femme avec sa petite poitrine et surtout sa coiffure, qui est encore une fois bien l'élégance des femmes tout couleur, là, qui est évoquée à travers sa petite coiffure, qui est reproduite avec de la cire, comme le sont les lèvres également. Donc on a ces petits détails assez charmants, des petites incrustations et l'utilisation encore une fois de cire pour donner des éléments donc d'identification. Là, on a une autre poupée qui a été collectée par la fameuse mission Dakar Djibouti, donc conduite par Marcel Griol entre 1931 et 1933. Donc, il y a un corpus important de poupées qui a été rassemblé à cette occasion-là, puisqu'encore une fois, les enfants étaient des interlocuteurs assez accessibles. On voit cette poupée qui est entièrement textile. C'est une poupée Wolof. Elle a une sorte de coiffure avec de la ficelle, et puis on voit apparaître effectivement des détails, encore une fois la poitrine qui est bien indiquée, là, entièrement effectivement en textile. Certaines d'ailleurs utilisent des tissus qui étaient des tissus imprimés, importés, ce qui leur donne encore une fois une certaine préciosité. Ce sont des petits objets. Et là, fabriqué donc par les enfants eux-mêmes. Alors voilà une autre poupée avec une base qui est en cire. Hein. Alors ce sont des objets effectivement qui sont assez fragiles, puisque on ne peut pas les toucher trop longtemps. On imagine surtout en Afrique où il fait très chaud, avec donc des incrustations de perles au niveau des yeux, au niveau de la coiffure, et une insistance encore une fois sur la poitrine qui est assez abondante. Celle-ci a été collectée au début du siècle par Louis Desplagnes en 1905, donc au Mali actuel, et on peut observer là aussi le textile qui est un tissu importé, un tissu imprimé qui n'est donc pas un tissu produit localement, ce qui donne encore une fois une certaine qualité à l'objet. Alors on a des solutions plastiques qui sont assez intéressantes, là, à partir d'objets inattendus. Là, c'est un os de mouton qui est surmodelé avec de la cire pour, encore une fois, représenter un petit personnage féminin. Voilà un autre os de mouton qui, là, est complètement habillé avec des perlages. On a déjà vu ça tout à l'heure, avec donc une véritable coiffure. J'en arrive effectivement à ces jouets qui sont les véritables jouets d'enfants. Là, ici, c'est une poupée du Tchad, fabriquée effectivement par un enfant. Donc, il y a une vraie distinction à faire entre ces différents usages. Et on le perçoit également à travers la plastique même du jouet. Les jouets en terre sont très, très courants en Afrique. On a des représentations d'animaux, de personnages, etc. Et voilà. Effectivement, ce qu'on pourrait appeler une poupée, plutôt utilisée d'ailleurs évidemment par une petite fille pour jouer. Ces jouets sont fabriqués en fait par les enfants pendant la saison sèche. Là, on a une autre représentation de maternité, donc un petit personnage Bassari du Sénégal, une femme qui là montre vraiment tous les détails de l'identité Bassari. Donc, c'est vrai que ces objets sont assez séduisants justement par la qualité de ces détails et même le les sentiments qu'on peut ressentir en voyant la manière dont le bébé s'accroche au dos de la maman. Donc là, on a des identifications qui sont très très claires grâce à ces détails de la parure. Alors là, ici, une poupée bédique, toujours du Sénégal, une autre région, mais où la poupée est formée à partir, vous voyez, d'un rachis de maïs qui a perdu ses graines. Mais en général, c'était l'épée de maïs qui était utilisé et qui est prolongé par une très jolie coiffure en fibre végétale, mais qui ressemble tout à fait à une chevelure qui se termine, vous voyez, par une petite tresse. Donc c'est vraiment l'objet là fabriqué encore une fois par une femme pour matérialiser cette relation avec sa petite fille qui est faite de confiance et de protection. Donc les poupées vraiment garantissaient, comme je l'ai dit, la conception, mais également protégeaient la vie des enfants qui étaient déjà nés. Donc on a un certain nombre de variations à partir du maïs. Vous voyez le maïs qui est coiffé de cette chevelure avec des tresses et qui a gardé ses graines. Donc là, c'est chez les sénoufos, vous voyez exactement le même principe, c'est tout à fait simple. Mais en même temps, ce n'est pas un hasard si c'est une plante cultivée, bien sûr, nourricière, qui est choisie comme support de cette représentation, puisque les graines alignées sont vraiment, on pourrait dire, comme autant de promesses de fécondité. En voilà une autre qui, elle, est constituée à partir de plusieurs maïs assemblés, une poupée Bassari avec toujours ses petits perlages, la tête en terre cuite et les yeux qui sont marqués par des petites perles. Donc c'est toujours un peu les mêmes combinaisons de matériaux, des choses effectivement qui sont tout à fait accessibles, qui sont là sous la main, et des enrichissements avec des éléments qui viennent de loin parfois et qui au contraire traduisent le prix qu'on donne à ces objets. Celle-ci est assez jolie, une petite poupée Bozo qui est en calebasse, donc de graines l'une sur l'autre. On est toujours dans la référence, j'ai terminé, à un monde qui est essentiellement végétal. On l'a vu, beaucoup de fibres, les épis de maïs. La symbolique évidemment est très très claire, c'est celle de la, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la matrice, de la reproduction, de la plénitude, de l'abondance, donc de la bénédiction au final. Et on a toujours ces petites parures, ces petits détails ici modelés encore une fois avec de la cire qui renvoie à l'image féminine. Et voilà, je suis presque terminée. On a une poupée Lengue du Mozambique, de la région de Sofala. C'est quatre petites calebasses, donc des petites courges qui forment les cuisses, qui sont très, voyez, très rondes. L'abdomen a l'air également très plein, le visage avec simplement les yeux qui sont percés de vers des petites perles pour les marquer. quartier, c'est une construction qui est tout à fait ingénieuse avec ses manières de maintenir ces différents éléments ensemble, avec le petit pagne devant qui cache entre guillemets le sexe, qui n'est ceci dit pas représenté. Tout cela véhicule effectivement les idées déjà exposées. Et pour finir, on en arrive un petit peu à une dimension qui est plus folklorique, on pourrait dire, de la poupée, et qui d'ailleurs s'était manifestée pendant la fameuse mission d'Arkar Djibouti, où il y avait des enfants qui ont proposé des représentations de femmes d'un autre groupe à travers les coiffures, etc., leurs voisins, on va dire. Là, ici, c'est une poupée Turkana, qui est assez récente, donc du Kenya, prolonge à la fois cette idée d'identité culturelle dont j'ai parlé à travers le costume, avec cette sorte de peau perlée qu'elle porte donc devant le corps, les anneaux de perles, bon, de chevelure également un peu ébouriffée en fibres. Donc on voit l'usage également des pièces de monnaie ou des boutons de chemise ou d'anneaux d'ivoire ou d'os, donc des perles également locales. Et donc cette représentation qui est toujours un peu une espèce d'idéal féminin, avec là une image qui est un résumé à la fois de l'aspiration individuelle, de l'aspiration collective, en même temps un miroir de ce que les hommes attendent des femmes et des jeunes filles. Et on a vu là, à travers ces quelques exemples que je vous ai montrés, à travers le temps entre 1880 et la fin des années 90, le dynamisme et également la perpétuation aussi de ces traditions entre guillemets. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis prête à répondre à toutes vos questions.